Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
Et oui, encore une excellente année et nos meilleurs vœux pour 2022. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur RMC pour vivre ensemble le retour du foot en France en direct. Qui dit premier week-end de janvier dit Coupe de France, bien sûr. Les 16e de finale débutent dans 3 quarts d'heure et on est sur la brèche du moindre petit exploit sur RMC, quasiment tous les stades, on est quasiment partout. Et Manu Amoros est là, salut Manu.
Salut Thibaut, bonjour à tous, meilleurs vœux, bonne année, surtout la santé.
Eh oui, la santé, bonne année à toi Manu. T'as pas le Covid, toi Manu?
Non.
Hein, parce que là en ce moment...
Je me suis fait tester avant Noël, le jour de l'an, ça va.
Passe à travers, parce que ça tombe comme des mouches en ce moment, les cas positifs. C'est Messi le dernier, là je sais pas si t'as entendu, on vient de le dans les infos sur RMC, c'est tombé il y a moins d'une demi-heure. Il y a une conférence de presse du Paris Saint-Germain en ce moment même, à deux jours du match de Coupe de France, à la veille d'ailleurs, c'est demain. On est sur place avec Marie Azé, on vous donnera les dernières nouvelles et les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain. On a aussi Bernat qui est positif, Manu. Et Bernat, hier, il s'est entraîné avec tout le monde à Paris.
Voilà, donc,
on va surveiller ça. Voilà. En tout cas, en 2022 comme en 2021, Manu, on te retrouvera tous les dimanches après-midi sur RMC pour la Ligue 1, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, tout le monde l'a compris, 2 janvier 2022, c'est la Coupe de France qui est au programme. Alors Manu, on est le 2 janvier, on va le rappeler, je le rappelle régulièrement. Champion d'Europe 84 avec l'équipe de France, vainqueur de la Ligue des Champions notamment, Manu, champion de France plusieurs fois. Et la Coupe de France, alors c'est t'en as gagné quelques-unes ou pas?
Une seule, sur trois, j'ai fait trois finales, j'en ai gagné qu'une.
D'accord, voilà. Avec quelle année,
contre qui en plus? Tu sais contre qui? Le Paris Saint-Germain.
Ah, avec Monaco?
Avec Monaco, ouais. Oui, avec Monaco à l'époque, un but de Bernard Gengini.
D'accord.
Et après la première que j'ai faite, j'ai perdu avec Monaco contre Metz. Et la belle finale où on avait fait Monaco-Marseille 4-3.
Et là, t'étais du mauvais côté.
Et j'étais du mauvais côté. L'année d'après, j'étais à Marseille, finale contre Monaco. Et j'étais encore du mauvais côté.
Ah, le chat noir.
Pourquoi tu dis ça?
Écoute, non, mais en plus, pas du tout. Chat noir, finale de Coupe de France, ça va, tu l'as quand même gagné.
Ouais, j'ai gagné quand même.
J'ai rappelé le reste de ton palmarès. Quand on a un palmarès comme celui de Manu Amoros, la Coupe de France, c'est. Bah, tiens, justement, t'en penses quoi, t'as de la Coupe de France? Tu l'as gagné qu'une fois, mais c'est cette compétition qui est quand même à part dans le sport français. C'est quoi ton avis là-dessus?
Ah, bah, écoute, c'est très compliqué parce que on a rencontré des clubs amateurs tout le long de la compétition et c'est très difficile de jouer contre des clubs amateurs parce que d'abord inconsciemment t'es moins motivé, t'as pas trop l'envie, les joueurs amateurs ils te rentrent dedans parce que eux ils veulent gagner contre toi, ils veulent créer l'exploit, donc c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour cette Coupe de France, et si tu l'as pas cet état d'esprit quand tu es professionnel, eh ben souvent tu passes à travers de cette Coupe de France parce que l'amateur lui il est plus résistant, il a plus envie quoi que toi.
Alors,
c'est normal, tu me diras.
Bah oui, bien sûr, le match d'une vie pour cela. Les 16e de finale qui commencent aujourd'hui, Manu. Les 4 premiers matchs à 13h45. RMC vous les propose en direct depuis les 4 stades. Cannes-Toulouse, Versailles, La Roche-Vendée, Brest-Bordeaux et Vitré-Nantes, 13h45. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a l'affiche entre deux clubs de Ligue 1, il y a le petit contre le gros, il y a les petits ensemble. Bref, RMC sera partout. Et on va tout de suite prendre la direction de Cannes, Manu. Le stade Pierre de Coubertin pour retrouver notre envoyé spécial sur place. Et on l'entend aussi, la Coupe de France, c'est aussi cette ambiance. Clément Brossard pour Cannes-Toulouse. Salut Clément.
Salut Thibaut, salut Manu, salut à toutes et à tous. Bonne fête à tous, messieurs, meilleurs vœux.
Et meilleurs vœux à toi Clément. Bonne année 2022. Raconte-nous un peu, on commence à l'entendre déjà, cette ambiance. Est-ce qu'on va avoir du monde à Cannes? Combien de personnes attendues? On entend un peu de musique déjà.
Oui, il y a un petit peu de monde qui commence à venir tout doucement au stade Pierre de Coubertin, stade de la Boca aussi, hein, on peut l'appeler ainsi. J'imagine que Manu, tu as dû passer un petit peu de temps à Cannes, non loin de Monaco, quand tu étais avec le club de la Principauté. Et ces belles années des débuts 90, je voyais d'ailleurs toutes les générations présentes aux abords du stade. Et un monsieur qui arborait fièrement un des maillots de début des années 90, notamment de Peter Luxin. Il y a de nombreux joueurs qui sont passés par ici. Patrick Vieira, Zinedine Zidane. C'est un club historique, la AS Cannes, et on attend un petit peu plus de 4000 personnes aujourd'hui dans ce stade Pierre de Coubertin, qui sera donc à moitié rempli pour vivre un énième exploit, puisque Cannes a renversé deux Ligue 2 avant d'affronter Toulouse. C'était Dijon, c'était Rodez, à chaque fois un partout et une victoire au tir au but. Annick Courtade, la présidente, qui est présente sur le terrain à l'instant, qui espère vivre une nouvelle belle après-midi, oui, merveilleuse même, de football à Cannes.
Tiens, fais-nous un petit peu rêver, là on est le 2 janvier, pour beaucoup c'est la fin des vacances aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire une belle après-midi, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'on est sur le cliché de Cannes 15 degrés grand soleil, c'est comment aujourd'hui là?
Ah, en termes de température, on n'est pas loin des 15 degrés, on doit être à 13 environ, après c'est un peu gris, et honnêtement c'est un peu couvert aujourd'hui en Côte d'Azur, il y a un rayon de soleil là qui apparaît à l'instant, donc on n'est pas loin des clichés, il fait quand même très bon.
Bon, après quand quelqu'un du sud nous dit c'est un peu couvert aujourd'hui, en général, Manu, tu confirmes, c'est que c'est tout gris.
Je te confirme, Clément, il y a une chance extraordinaire entre Monaco, Nice, Cannes, la Côte d'Azur, c'est extra.
13h45, Cannes, National 3 contre Toulouse, le deuxième de Ligue 2. Tu as commencé à nous parler, Clément, du parcours de cette équipe cannoise. Attention, si ça va au tir au but pour les Toulousains, n'est-ce pas, Clément?
Exactement. Je vous rappelle rapidement les trois derniers matchs de l'AS Cannes en Coupe de France. Victoire face au Puy, National 2, un partout, victoire au tir au but. Ensuite, Rodez, club de Ligue 2. Exactement, tu l'as bien compris, il y a quelques sifflets à l'arrivée des Toulousains. Rodez est venu sur la pelouse du stade Pierre de Coubertin, donc c'était en 68e de finale, un partout, victoire au tir au but. Dijon en 32e de finale, un partout, victoire au tir au but. Un homme derrière tout ça, Florian Verplanck, le gardien numéro 2, habituel en National 3. On rappelle que cette équipe de Cannes est 3e de son championnat de National 3. Il a fait des performances incroyables pendant le match, mais aussi redoutables lors des séances de tir au but. Il en a fait une de ses spécialités, nous disait l'entraîneur Jean-Noël Cabezas, pour l'avoir eu au téléphone hier. Il a bien préparé l'exercice lors de la séance, la dernière séance donc qui avait lieu hier. Et Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, a aussi observé les matchs de Cannes, et en conférence de presse cette semaine, il a dit: je sais très bien que les tirs au but, les pénaltys sont une spécialité cannoise, ne vous inquiétez pas, nous aussi on les a travaillés. Il y aura en face Isaac Peterson, qui est un gardien expérimenté et qui saura aussi faire valoir ses qualités si jamais Cannes accroche une nouvelle séance de tirs au but face au deuxième de Ligue 2.
Et Manu, alors par rapport à ce que nous dit Clément, c'est d'autant plus important que cette année, Covid oblige, il n'y a plus de séance de prolongation, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile, entre guillemets, hein, bien sûr, d'amener les pros jusqu'au tir au but.
Oui, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Dans l'esprit, c'est peut-être plus facile, mais sur le terrain, ça ne doit pas être si facile que ça, parce que une N3 et une L2, c'est les entraînements donc déjà varient, parce que sûrement que Toulouse s'entraîne toute la semaine, sont des professionnels, alors que Cannes National 3, il y a pratiquement pas de professionnels. Il y a peut-être des contrats fédéraux.
Quasiment que ça, Manu, figure-toi, Cannes a un rôle à part en National 3, puisque quasiment tous les joueurs sont en contrat fédéraux et donc ils s'entraînent tous les matins.
Je ne savais pas qu'on pouvait avoir tout un effectif avec des contrats fédéraux. Je pensais qu'on pouvait en avoir 4 ou 5 ou 6.
Et oui, mais quand tu as une présidente avec une ambition comme Annick Courtade, elle a envie de mettre tous ses joueurs dans les conditions quasi professionnelles, parce que l'ambition, c'est évidemment de remonter en National 2 très rapidement et puis de retrouver le monde professionnel. Et elle s'en donne les moyens, la présidente cannoise.
Annie aime les succès.
Mais de toute manière,
Clément, juste sur ces derniers jours, la période de fête, réveillon, il y a deux jours, est-ce que tu les as eus, tu nous as dit, tu connais un peu le programme là, des Cannois, est-ce qu'on est resté sage, est-ce qu'il y a eu des consignes pour les amateurs quand même sur ces jours de fête?
À l'inverse de toi, Thibaut, ils sont restés très sages, les Cannois, pendant ces fêtes. Le 31 a été relativement calme. Ils ont repris les séances d'entraînement le 27, et ensuite ils se sont préparés comme lors de la saison. On n'a pas changé notre programme, disait Jean-Noël Cabezas. Ils se sont entraînés donc tous les matins, se sont fait vacciner aussi pour certains, puisque c'est une condition pour disputer ce tour de Coupe de France. Il fallait avoir un parcours vaccinal complet, donc certains ont effectué leur troisième dose dans la semaine. Hier, Florian Verplanck, le gardien de cette équipe, m'a affirmé qu'il n'y avait aucun malade dans l'effectif de la AS Cannes, donc il sera donc au complet aujourd'hui face à Toulouse.
Mais ils ont bien été testés ou pas? Juste parce que il y a justement ça qui monte, et on va en reparler, on aura le temps d'en parler aujourd'hui avec toi, Manu, avec tous nos membres de la Dream Team sur RMC. Mais effectivement, on sait, on connaît le protocole pour les pros, il y a des tests très réguliers, on a parlé du test positif de Léo Messi ce matin. La Fédé n'a pas obligé les clubs amateurs à forcément se tester, et du coup on peut peut-être se dire, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait, il y a certains clubs qui ont beaucoup moins testé que d'autres pour être sûr d'avoir tous leurs joueurs.
Clément. Et c'est ce que certains joueurs me disaient justement. L'obligation de la Fédération française, c'est d'avoir le parcours vaccinal complet. Mais en aucun cas, le test PCR avant le match n'est obligatoire. Donc, à Cannes, en tout cas, tous les joueurs n'ont pas été testés. Ouais.
Voilà. Mais ça veut dire que les amateurs qui se testent pratiquement pas sont moins. Ils ont moins le Covid que les professionnels qui se testent presque tous les deux jours.
Et oui. Mais ça aussi,
parce que si tu regardes bien les amateurs, là, il n'y en a pratiquement pas. Alors qu'à Bordeaux, il y a 21 cas. À Angers, il y en a 19. À Rennes, il y en a quelques-uns. À Monaco, il y en a quelques-uns. Oui. Et franchement, c'est bizarre, non, comme situation.
Et justement, est-ce qu'il y a une équité un peu mise à mal là avec ces tests et ces protocoles complètement différents, Manu?
Moi je pense que oui, parce qu'arriver en 16e de finale et que tu rencontres une équipe et que tu vas aller sur un terrain avec les spectateurs, je pense que tout le protocole de la fédération devrait être de partout les mêmes. C'est-à-dire on doit se faire vacciner, avoir un pass vaccinal qui permette de pouvoir jouer.
Alors vacciner oui, mais c'est sur les tests c'est la différence.
Mais les pros sont obligés de se tester tous les deux jours ou trois jours en tant qu'amateur. Et là, on a l'impression qu'il n'y a que les pros, quoi.
C'est les pros ont été obligés et pas les amateurs, effectivement. Ce sera peut-être un thème de ces 16e de finale de Coupe de France entre des équipes professionnelles décimées par le nombre de cas et des équipes amateurs pour beaucoup au grand complet parce que pour beaucoup, évidemment, non testés. Merci Clément, on te retrouve dans quelques minutes.
Je vous ajoute une petite chose, messieurs. Allez, il y a une cinquantaine de supporters toulousains qui sera présente au stade Pierre de Coubertin qui sont partis ce matin à 4h30. Vous voyez la folie de la Coupe de France, ça entraîne même les clubs de Ligue 2.
C'est ça, c'est la folie de la Coupe de France. Merci Clément, à tout à l'heure. Cannes contre Toulouse, coup d'envoi 13h45. Dans un instant, on va continuer notre tour des stades. Quatre matchs des 16e de finale qui débutent à 13h45 sur RMC. Cannes-Toulouse donc. Il y aura également Versailles, La Roche-Vendée, Vitré contre Nantes et le premier duel 100% Ligue 1 de sa 16e de finale entre Brest et Bordeaux. On ira dans un instant à Francis Leblay avec Xavier Grimaud, avec Manu Amoros et avec vous, plus que jamais en ce 2 janvier. Dernier jour de vacances pour beaucoup. Hashtag RMC Live, direct studio. N'hésitez pas, on est ensemble. On passe le week-end ensemble sur RMC, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot, Coupe de France. RMC, Intégral Foot, Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
C'est vrai qu'il y a une époque où on se faisait la bise. C'était ça me semble. Manu, tu t'en rappelles de ce bon vieux temps?
Je m'en rappelle,
Un temps que les moins de 2 ans ne peuvent pas connaître. Il est 13h18, c'est l'Intégral Foot. Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, est là pour le retour du foot en direct en France. Et oui, c'est la Coupe de France qui redémarre aujourd'hui, les 16e de finale. Premier match dans moins d'une demi-heure, 13h45. 4 matchs, 4 rencontres où RMC est présente. Cannes-Toulouse, Versailles contre la Roche-Vendée, Brest face à Bordeaux et Vitré contre Nantes. On va suivre ces matchs ensemble et voilà, on continue de prendre la température sur ces pelouses. Nous étions il y a quelques minutes à Cannes pour ce match entre le club de National 3 et le deuxième de Ligue 1, de Ligue 2. Et on va se concentrer sur cette affiche 100% Ligue 1 entre Brest et Bordeaux. Salut Xavier Grimaud à Francis Leblay.
Salut Thibaut, salut Manu.
Et la bonne année,
Xavier. Salut à tous, oui, très bonne année, bien sûr. Blo Avezmat, comme on dit en breton. Blo Avezmat.
Blo Avezmat à toi, Xavier. Voilà, meilleur vœu, comme on dit en breton. On va peut-être se régaler cet après-midi sur cette affiche.
Je n'en ai aucune idée. Voilà. Match entre équipes de Ligue 1. En revanche, est-ce qu'on peut vraiment le dire, Thibaut? Parce qu'on rappelle que Bordeaux est totalement décimé. On va rappeler un peu. Je vais vous donner la compo bordelaise avec des joueurs. On va les citer parce que c'est des jeunes qui vont vivre une expérience formidable pour eux. Hein, Manu, ils vont être dans un match professionnel face à Brest. 21 joueurs pro touchés par le Covid, énorme cluster du côté de Bordeaux qui va devoir jouer parce que le protocole de la FFF n'est pas le même que le protocole de la Ligue, donc il faut au moins 7 joueurs disponibles. Ils ont les 7 joueurs, c'est une véritable hécatombe. Costil notamment, Gaëtan Poussin, les deux gardiens sont blessés. Ce sera donc David Rouillard, 22 ans, troisième gardien de l'équipe réserve, qui sera titulaire dans les buts. On va citer Mohamed Agoun, 19 ans, arrière gauche. Tijani Atala en défense centrale avec Timothy Pembele, lui on le connaît, c'est un pro évidemment. Johan Enko Louis-Jean, 17 ans, arrière droit. Émeric Depucet, Joab Pascal, 21 ans, au milieu de terrain. Voilà, il y a quand même 5 pros. Dil Rossoun, Elise Briand, qui est capitaine et qui aura un rôle important aujourd'hui, et Wang, le sud-coréen, qui sera titulaire. Mais Manu, c'est quand même une situation extrêmement compliquée avec des jeunes de la réserve qui peut-être physiquement même vont souffrir, parce qu'à Brest, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est l'équipe type.
Oui, c'est vrai que Bordeaux, il y a une hécatombe, et moi je pense qu'on aurait pu reporter le match quand même, parce qu'on ne peut pas donner un spectacle et une Coupe de France qui est attachée quand quand même à tous les joueurs, parce qu'on a envie de gagner ce trophée qui est assez retentissant un petit peu dans le monde du football, et qu'on a envie de gagner et se retrouver avec une situation. Alors bon, ça va permettre de voir certaines jeunes de qualité que Bordeaux a éventuellement peut-être dans l'avenir, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas, ils ont pas le rythme de la compétition. Même si c'est un match de reprise, Brest va tout faire pour leur marcher dessus, pour leur montrer que la division 1 est complètement difficile.
Et ça va donner finalement un vrai match de coupe entre les pros brestois et certains amateurs jeunes, en tout cas bordelais. Tu nous le disais, Xavier, côté brestois, c'est la vraie équipe de Ligue 1.
Oui, parce que Michel Darzacarian, il l'a dit, moi je prépare la deuxième partie de saison, donc il n'a pas à faire tourner en ce début d'année. Il avait beaucoup fait le tour d'avant, et souvenez-vous, il y a eu cette séance de tir au but interminable. Brest était passé par la toute petite porte 15-13 au tir au but face à Dinan Léon, les costards mauricains. Donc là, c'est du lourd. Il y a juste l'Arseneur, le gardien qui est dans les buts. Il joue en coupe. Sinon, on aura l'équipe type avec une défense, avec Chardonnay, avec Pierre Gabriel, avec Brassier. On aura Romain Fèvre qui sera là. Cardona sera là, lui. C'est peut-être également, il n'est pas dans l'équipe type. En général, c'est plutôt le Doiron, mais il sera titulaire. On aura Steve Mounier, on aura Franck Honora. Bref, on a du lourd, et c'est normal parce que Brest a l'occasion de se qualifier pour les huitièmes. C'est pas si souvent que ça à Brest qu'on a des épopées en coupe, donc il faut en profiter dans un stade Francis Leblé qui sera pas très rempli. C'est le moins qu'on puisse dire. On devrait être aux alentours de 6000 avant l'arrivée des jauges. On fait déjà les jauges à Brest sans que les jauges soient obligatoires.
Ouais, Michel Desacarien, il veut pas faire l'impasse sur la coupe.
C'est pas le genre.
Non,
enfin, c'est le pas le genre. Le tour d'avant, non, il était pas loin d'avoir fait l'impasse en mettant une équipe B qui a failli se faire sortir. Mais là,
c'était pas Bordeaux en face.
C'était pas Bordeaux en face, exactement. Là, on prend pas de risque.
Tiens, les petites infos coulisses, comment on a passé les fêtes. Est-ce que t'as des petites infos à nous donner, Xavier, là, sur
ces équipes ? Je peux te raconter comment j'ai passé les fêtes, mais les infos côté reste pas.
Vas-y alors, c'était comment ton 31, Xavier ?
C'était très bien. Tout le monde est parti que ce matin. Voilà.
D'accord.
Donc un peu à rallonge. Je les salue d'ailleurs, sur la route.
Voilà, on embrasse la famille Grimaud. Profitons-en, c'est le 2 janvier. Le Brest-Bordeaux, bon, compliqué pour les Bordelais, ce serait quasiment un exploit finalement, Manu, quand on voit la compo et cette équipe, les pros bordelais décimés par les tests positifs au Covid.
Tu sais, on ne sait jamais, les jeunes peuvent se révéler et être performants. Donc c'est à Brest à se méfier, à mettre beaucoup de pression sur ces jeunes-là qui n'ont pas l'expérience du haut niveau. Mais il y a quand même quelques anciens comme Briand et d'autres qui peuvent encadrer ces jeunes-là et les motiver pour qu'ils soient performants. Mais bon, après, c'est vrai que ça devient quand même compliqué. Des joueurs de 17 ans, 19 ans, c'est pas facile.
Ouais. Alors qu'on entend au stade Francis Leblé, Matt Cohn, je crois, qui dans les enceintes derrière. Sorti il y a une dizaine d'années. Donc on est
Ah ouais?
Non. On est dans les temps, là, à Brest, hein, Xavier, sur la musique.
Je peux pas t'aider, j'ai pas reconnu la musique.
Tu connais pas ça? Tiens, écoute. Manu, tu connais?
Non.
Ah si, mais si. Don't worry.
C'était ta 2015, musique. C'était
Don't
ta musique
worry
if it's
Red Alton 2015. Merci Xavier, on se retrouve dans quelques instants pour ce Brest-Bordeaux. On a hâte de voir ce que ça va donner, là, ce match 100% Ligue 1, mais avec une équipe de Bordeaux bis. On a hâte de voir les jeunes bordelais. 13h23, dans 20 minutes, le coup d'envoi de notre 4 premier match de Coupe de France. C'est l'intégral foot, vous êtes sur RMC. Toujours avec Manu Amoros, notre membre de la Dream Team. Cannes, Toulouse, Versailles, La Roche-Vendée, Brest-Bordeaux et Vitré contre Nantes. Ce sera notre quatrième match à 13h45. Ça se passe à La Beaujoire, où Nantes, le 7e de Ligue 1, reçoit donc ce club de National 2. Salut David Philippot et bonne année à toi.
Salut Thibaut, salut Manu, meilleurs vœux également à tout le monde.
Meilleurs vœux à toi aussi.
Pourquoi ça se passe à La Beaujoire? Ce serait pas Vitré Nantes normalement?
Mais oui, il y a eu inversion de la rencontre en début de semaine décidée par la Fédération française de football en raison de possibles troubles à la sécurité, c'est-à-dire possiblement des affrontements entre ultra nantais et ultra rennais, puisque Vitré est très proche de la ville de Rennes. Donc le match a été inversé, ça a évidemment provoqué la colère des dirigeants de Vitré, également de la mère de Vitré qui s'en est mêlée, qui était vraiment mécontente du fait que cette fête du foot, parce que c'est une vraie fête du foot pour les Bretons, elle n'ait pas lieu à Vitré. Ils auraient souhaité recevoir et ça aurait été évidemment plus sympa. Moi je suis arrivé tout à l'heure à La Beaujoire, il y a trois quarts de Vitré, ils seront à peu près un peu plus de 300 venus en quart. Bon, ils font un peu de bruit, ils chantent, mais c'est évidemment pas l'ambiance que si ça avait été du côté de Vitré dans un stade un peu plus champêtre. Il y aura à peu près entre 8 et 10 000 personnes quand même. Et alors là, on vient de l'apprendre, c'est ça qui est assez étonnant. Il y a une jauge qui a été décidée par la préfecture de Loire-Atlantique le 31 décembre. Aucun média n'était au courant, on nous a appris ça tout à l'heure. Une jauge à 10 000 spectateurs. Et il y aura donc entre 8 et 10 000. La préfecture de Loire-Atlantique a anticipé un peu en fait. Normalement, la jauge de 5000 c'est demain, c'est à partir de demain. Ouais. Et là, ils ont décidé une jauge à 10 000 dans ce stade de la Beaujoire. Et donc, il y a entre 8 et 10 000.
Et il y a besoin de mettre la jauge. On attendait vraiment. Les Nantais sont aussi fidèles.
Je suis très étonné. Sincèrement, je suis très très étonné. Je vois pas l'intérêt de cette jauge. Je pense qu'on aurait de toute façon pas dépassé les 10 000 spectateurs cet après-midi du côté de Nantes, même s'il fait doux. J'entendais que vous parliez de météo tout à l'heure. Il fait plutôt doux. C'est plutôt agréable, mais je pense pas que le 2 janvier il y aurait eu énormément de monde pour ce match entre une Ligue 1 et une Nationale 2.
Bon, c'est le retour du foot, on est le 2 janvier, on a passé les fêtes, c'est dimanche, il fait beau, on va dans les stades voir ce Nantes vitré. David, un mot du parcours là, de ces deux équipes pour arriver en 16e de finale. Nantes ça fait un peu peur, on peut le dire quand même, au tour précédent.
Alors Nantes, je suis en train d'y pas. Oui, c'était une victoire. Je suis un peu perdu. Oui, contre Sochaux, effectivement, une victoire
au tir au but.
Très compliqué des Canaries, effectivement. Là, cet après-midi, on a une équipe de Nantes, pas au complet parce qu'il manque du monde quand même. Il y en a quatre qui sont à la CAN. Simon, Castelletto, Koulibaly et Traoré sont à la CAN. Colomouani ne jouera pas, il est blessé au pied. Et Boukari et Coco ont le Covid, donc ils sont évidemment au repos. Et Lafont a également été laissé au repos. Ça sera donc des camps dans la cage nantaise, mais ça reste une équipe de Nantes qui normalement devrait s'imposer en plus sur sa pelouse. Elle est compétitive.
Septième de Ligue 1, effectivement.
Septième de Ligue 1, on retrouve juste Aymon devant, Jubels, Blas, Pereira, Dessa et Chirivella, Cyprien au milieu du terrain. Une défense quand même solide. C'est la défense quasiment qui est alignée en Ligue 1, avec Fabio à droite, Giroto, Palois dans l'axe et Merlin, le jeune du centre de formation, sur le côté gauche.
David, je me suis rendu compte, je t'avais un peu piégé là. T'avais pas Sochaux tout de suite, mais est-ce que tu avais Madcon, toi? Parce que Manu ne l'avait pas, Xavier Grimaud ne l'avait pas. J'ai demandé à Juju en régie de nous la mettre. C'était ça qu'on entendait à Francis Lebey il y a un instant. Alors, vous l'aviez quand même, messieurs, Madcon, Don't Worry, putain, Red Alton.
Bien sûr qu'on l'avait.
T'es vieux, bordel.
On attendait.
Clément, j'entends Clément Brossard, rassure-moi, tu l'avais, je suis pas tout seul à connaître ça.
Évidemment, sur RMC. Vous savez, il commence à prendre de l'âge un petit peu partout en région. C'est pas facile pour tout le monde.
Je crois que va falloir 2022, va falloir rajeunir certaines têtes sur RMC. Merci David.
Attends, j'ai une question pour David. Est-ce que le président Keïta va laisser la recette à Vitré, parce qu'en 2019, il avait oublié de leur laisser, non?
Non, c'est une bonne question. Je voulais justement en parler. C'est vrai qu'il ne l'avait pas. Les deux équipes s'étaient affrontées en quart de finale à Laval. C'était à Laval. Et le président Keïta n'avait pas laissé la recette de 40 000 euros. Alors évidemment, comme toujours, ça avait fait polémique. C'est pas la première fois qu'on lit ça, qu'il y a des polémiques autour de ça. Alors là, que va-t-il faire? Il pourrait, alors j'ai entendu dire, il pourrait, avec l'argent récolté, combler tous ses frais au niveau de la sécurité et peut-être donner ce qui va rester, en gros, la plus-value.
8,50 euros.
Mais en tout cas, non, mais tu rigoles, mais je pense que ça ira pas chercher très très loin. Et on n'a pas encore la certitude. Moi, j'ai entendu parler de ça, mais c'est pas sûr du tout. On va voir si Valdemar Keïta.
Ça dépend du résultat, peut-être.
Tu vois, peut-être aussi. S'il y a une élimination, ça m'étonnerait. Non, ça c'est sûr. C'est certain. Okay. Et tu posais la question tout à l'heure à Xavier. Ils ont été visiblement très très sobres, les joueurs de Vitré, pendant ce réveillon, comme les Nantais d'ailleurs.
Vas-y, raconte.
C'est juste qu'on m'a indiqué ça. Une personne du club du Vitré m'a.
On a bien préparé le match, quoi.
Voilà. Non, on le prépare très très sérieusement, évidemment.
Et d'ailleurs. Ça veut dire que les pros, ils ne préparent pas très bien parce qu'ils font la fête. Ils ont le Covid, les amateurs.
Mais d'ailleurs, n'hésitez pas sur les terrains à nous dire. Nos chers commentateurs là, de ces quatre matchs, si vous avez des infos, même sur les tests Covid, notamment pour les amateurs, on rappelle, on en parlait en prise d'antenne avec Manu, il y a ce protocole strict, en tout cas protocole clair pour les équipes professionnelles qui doivent se faire tester très régulièrement. Évidemment, je rappelais encore que Léo Messi a été testé positif ce matin, comme trois autres joueurs du Paris Saint-Germain, dont Bernat. On vous donnera plus d'informations dès qu'on en a. Messi est à l'isolement, mais c'est vrai que les clubs pro, on a beaucoup, on parlait de Bordeaux tout à l'heure, beaucoup d'absents. Côté amateur, c'est pas le même protocole. Il faut être doublement vacciné, mais il n'y a pas d'obligation de tester les joueurs.
Mais Thibaut, ont-ils l'obligation de se faire tester avant ce match de Coupe de France? S'il n'y a pas de protocole d'obligation de la part de la FFF, pour les clubs amateurs, j'imagine que c'est la même chose pour les clubs pro. C'est ça que je comprends pas, en fait.
Ah, après, il y a les tests. Pour
oui, mais c'est, pour... les, c'est les, le club qui prend entre guillemets en charge les joueurs et qui font les tests.
Oui, mais il n'était peut-être pas obligé de le faire. C'est ce que je veux dire. Il
n'était peut-être qu'ils sont pas obligés de le faire, mais le club professionnel le fait parce que d'abord, il a un peu plus de moyens pour pouvoir tester tous les joueurs professionnels et puis après pour leur santé aussi, leur sécurité aussi.
Mmh. Oui, et puis il y a surtout les tests après pour jouer en Ligue 1. Bon, en tout cas, on suit ça et ça pourrait effectivement, rapprocher niveler certains matchs, en tout cas quand les amateurs seront à 100% de leur force face parfois peut-être à des équipes pro auxquelles il manque de nombreux joueurs. David, on se retrouve dans un quart d'heure.
Allez, à tout à l'heure.
Coup d'envoi de ce Nantes Vitré 13h45, 4 matchs de Coupe de France des 16e de finale à vivre sur RMC avec Manu Amoros. Il y aura ce Nantes Vitré, il y aura Cannes contre Toulouse, il y aura Brest contre Bordeaux et dans quelques instants on ira voir notre dernier match, Versailles, club de National 2 qui reçoit la Roche-Vendée, club de National 3. Mais la Coupe de France, ce sont des belles histoires. Et c'est par exemple l'histoire de notre commentateur Kevin Gasseur, qui est actuellement en voiture et qui n'arrive pas à se garer autour du stade Montboron de Versailles. Voilà, tu vois, le parking est trop petit, Manu. Et dans les rues de Versailles, apparemment, c'est un peu galère pour trouver une place. Donc voilà, c'est un peu notre fil rouge. Est-ce qu'à 13h45, Kevin aura trouvé une place et sera avec nous pour pouvoir commenter ce Versailles, la Roche-Vendée? Restez sur RMC et vous en aurez la réponse. On a du foot, évidemment, cet après-midi. On a aussi du rugby, Manu, parce que les footballeurs reprennent aujourd'hui en ce 2 janvier par la Coupe de France, mais le rugby ne s'est pas vraiment arrêté, même s'il y a eu des matchs reportés. Le top 14 continue, c'est la 14e journée qui a commencé dès hier, hein, 1er janvier. Les joueurs du top 14 étaient sur le pont avec le début de la phase retour déjà du championnat, la 14e journée. Hier, le Stade français a battu Perpignan, Clermont a dominé Toulouse, et à partir de 14h, dans moins d'une demi-heure, Pau, la section paloise, reçoit Brive, et ce sera commenté sur RMC par Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut Thibaut, salut
Paul. Bonjour
à toutes et à tous. Meilleurs vœux. Thibaut, quand je t'entends, je repense au sacre de Max Verstappen.
Hein. C'est exactement ça.
Ça risque d'être ancré dans de longues années.
On a eu la chance sur RMC de partager ce moment à l'antenne avec toi, avec Jean-Luc Roy évidemment.
Magnifique.
Et ça a été un moment.
Mon meilleur moment de radio en 24 ans de radio.
Franchement, c'est partagé. Mon meilleur moment d'un an et demi de radio également. Paul, peut-être un autre grand moment, ce sera différent. On se retrouve sur le rugby cet après-midi. C'est le quotidien.
C'est ce
top 14 avec la phase retour qui débute ce week-end et donc à 14h ce match entre Pau et Brive, match important, le 10e face au 12e, et Pau qui a l'occasion de creuser un petit écart en cas de bons résultats cet après-midi. Hein.
Oui, effectivement, Sébastien Piccheroni, le manager général vert et blanc, évoquait cette semaine en conférence de presse un match évidemment pour le maintien à 4 voire à 5 points, car on sait que des formations comme la section paloise, comme Brive, comme Perpignan, comme le Biarritz Olympique joue le championnat du bas, c'est-à-dire pour éviter la descente en Pro D2, et ce match est importantissime. Alors c'est vrai que la section paloise voudrait marquer son territoire à domicile face à une belle formation briviste. Ces deux formations qui ont été amputées d'un match en raison du Covid. La section paloise devait jouer contre le Racing 92 le 27 décembre dernier, match reporté, tout comme Brive qui devait recevoir Clermont, là aussi match reporté. Donc c'est sur un pied d'égalité que ces deux formations vont en découdre à partir de 14h, avec peut-être un petit avantage sur le papier pour une équipe de la section paloise qui est assez saignante à domicile, même si elle avait dû partager les points face au RCT, l'équipe de Toulon, il y a quelques semaines. Des éléments moteurs comme Jordan Joseph, prêté par le Racing 92, ou encore Antoine Astoy, qui quittera la section paloise pour La Rochelle. Ce sont des éléments moteurs qui devraient permettre à cette section paloise, en tout cas, de briller à domicile, mais face à une formation briviste qui reste sur 4 succès de rang face aux Palois, que ce soit à Brive ou ici au stade du Hameau. Autant dire que cette formation corrézienne voudra en découdre évidemment, et pourquoi pas s'imposer pour revenir et passer cette équipe de la section paloise. Les forces en présence, on les connaît, avec évidemment côté briviste un Saïd Iresh, le capitaine, toujours un superbe gratteur, ou encore le meilleur contreur du championnat, Rétif Marais, qui sera évidemment aligné en numéro 8 cet après-midi. Il y aura de la castagne, Thibaut et Manu, cet après-midi. On peut évidemment le...
Ça s'appelait à Manu, ça. Là, tu sais comment le garder avec toi. Là,
non, mais on s'attend évidemment une guerre de tranchées. Les conditions sont quasi idéales. 13 degrés, ciel légèrement couvert. Bon, les 30 acteurs devraient prendre du plaisir sur cette pelouse. Pour l'instant, c'est un petit peu clairsemé. Thibaut, ça devrait arriver. On attend entre 7 et 8 000 spectateurs pour ce match, du maintien entre la section paloise et le CA Brive, dont le coup d'envoi sera donné dans un petit peu moins de 25 minutes.
Et ce sera à vivre en direct sur RMC avec toi, Paul. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour ce Pau Brive. Je vous donne le programme d'ailleurs de cette journée sur RMC de Top 14. 14 à 14h. Pau-Brive à 16h. UBB, Biarritz à 18h. Castres, La Rochelle. Et à 21h05, Loup contre le Racing 92. Le match entre Montpellier et Toulon a été reporté à cause de cas de Covid côté toulonnais. Hier, je vous le disais, Clermont a dominé Toulouse hier soir 16 à 13. Le Stade français a battu Perpignan 27 à 17. Il est 13h35. C'est l'intégral foot sur RMC avec Manu Amoros dans 10 minutes. Le coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe de France avec nos 4 matchs et ce suspense. C'est ce que Kevin Gasseur, notre commentateur, aura réussi à trouver sa place de parking à Versailles pour cette affiche entre Versailles, club de National 2, la Roche-Vendée, National 3. Et oui, c'est pas toutes les semaines que Versailles reçoit du beau monde pour affronter pour un gros match de foot. C'est ça aussi les belles histoires de la Coupe de France, Manu. Le stade ouais. Montboron de Versailles. On retrouvera Kevin dans quelques minutes. Et puis concernant la Coupe de France, je vous rappelle également l'information de ce début d'après-midi. Le Paris Saint-Germain qui doit jouer demain à Vannes compte 4 cas de Covid dans ses rangs, dont Lionel Messi. Messi donc positif, tout comme Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala. Messi qui a été placé à l'isolement en Argentine où il a passé les fêtes de fin d'année. Donc pas de Léo Messi pour l'instant. Je rappelle que de toute façon Messi n'aurait pas joué à Vannes demain, hein, évidemment. Mais le Paris Saint-Germain
aujourd'hui, non,
il devait rentrer. Il devait rentrer là et PSG affronte Lyon dimanche prochain. Donc il y avait quand même un gros match de Ligue 1. Est-ce qu'il pourra jouer ou pas contre Lyon? Mauricio Pochettino en conférence de presse. Alors évidemment, il dit jamais grand-chose, Pochettino. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il a dit sur la présence ou pas de Messi? Il a dit je sais pas, voilà. Donc peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Messi dimanche prochain contre l'Olympique Lyonnais.
Mais Thibaut, tu disais qu'il est toujours en Argentine là?
Ouais. Absolument. Ah, ouais, il est resté
donc,
là-bas.
On sait pas quand est-ce qu'il va rentrer, parce que quand il va rentrer, il faut qu'il se mette à l'isolement ou pas? Alors. C'est ça le problème. Est-ce que les accords, d'État par rapport au virus, est-ce qu'il est obligé, en rentrant en France, de s'isoler quelques jours?
Alors là, si j'avais été Olivier Véran, je t'aurais répondu, mais du tac au tac.
Donc ça veut dire que dimanche prochain, il jouera pas.
Ça paraît compliqué, effectivement.
Ouais, oui.
Mais bon, en tout cas,
je suis désolé d'avoir posé.
Non, mais il n'y a pas de mal à dire que je suis pas au courant. Ce que je peux te dire. En tout cas, c'est qu'à partir de demain, le protocole va évoluer. C'est en tout cas ce qu'indique Olivier Véran, pour le coup, le ministre des Solidarités et de la Santé, mais pour tous les Français. Alors après, les accords argentino-français, je t'avoue que Manu, je ne les ai pas. Il est 13h37. Dans moins de 10 minutes, le coup d'envoi de nos matchs de Coupe de France. Dans un instant, Manu, on va faire une dernière pause avant les coups d'envoi et on va refaire un tour des stades avant le début du foot en direct de janvier sur RMC. Ne bougez pas.
RMC Intégral Foot Coupe de France. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande
avec Manu Amoros. Manu qui sera là comme tous les dimanches. D'habitude c'est la Ligue 1 à 13h et ce sera le cas d'ailleurs dès le week-end prochain, mais qui dit 2 janvier, premier week-end de l'année, dit Coupe de France. Les 16e de finale débutent dans 5 minutes avec les 4 premiers matchs, 4 matchs à 13h45. Il y en aura 4 supplémentaires à partir de 16h et puis 4 autres à 18h30, dont Quevilly, Monaco notamment ce soir. À 21h, vous vivrez Chauvigny Olympique de Marseille avec le retour de Jeannot Rességué. Vannes Paris Saint-Germain, ça sera demain soir et il y aura enfin l'affiche, le derby entre Lens et Lille. Mardi, dans 5 minutes, 4 matchs longs, celui entre Cannes et Toulouse. Cannes National 3 contre Toulouse, deuxième de Ligue 2, Clément Brossard. Il n'y a pas qu'une histoire de foot là, malheureusement. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe?
Ça chauffe un petit peu dans les tribunes du stade Pierre de Coubertin. La cinquantaine de Toulousains venus donc de Toulouse pour assister à ce match dont je vous parlais tout à l'heure se sont installés en tribune. Il y a une large bronca, des copieux sifflets de la part des supporters de Cannes. Le problème, c'est que les supporters de Cannes peuvent aller jusqu'au parquage du supporter toulousain et donc les forces de l'ordre sont arrivées avec le renfort de Stadier notamment pour tenter d'installer une petite zone de sécurité parce qu'il y a 2-3 énergumènes cannois qui sont venus provoquer les supporters toulousains pour aller jusqu'aux grilles vraiment du parquage toulousain. Donc on va surveiller un peu ce qui peut se passer en tribune. Ça a un petit peu perturbé le début de rencontre. Les joueurs vont arriver d'une minute à l'autre sur la pelouse, mais voilà, ça chauffe déjà entre supporters cannois et supporters toulousains.
Et ben voilà, 2 janvier, les abrutis n'auront pas attendu longtemps avant d'être de sortie en saison de 2022. C'est vrai que tu vois, quand Manu, on se disait qu'est-ce qu'on souhaite pour 2022 sur l'aspect sportif. C'est vrai qu'on aurait pu dire tous ces idiots restent chez eux ou quoi, mais bon, c'est 2 janvier, c'est Coupe de France.
On n'arrive pas à les maîtriser quand même pour pouvoir qu'ils n'amènent pas cette folie dans les stades et que les gens qui viennent au stade pour regarder un match de football soient tranquilles, soient apaisés et qui encouragent leur équipe.
C'est complètement n'importe quoi. Clément, merci, on te retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi et le match se Cannes-Toulouse, tour des stades dans 4 minutes, le coup d'envoi de Brest-Bordeaux avec la jeunesse bordelaise. Xavier Grimaud, est-ce que t'as bossé un peu ta playlist aussi ou pas? Qu'est-ce qui se passe?
Non, pas trop. Ah si, là c'était comment ça s'appelle déjà? Ça, Daft Punk qui passait à l'instant.
Comment ça s'appelle ça? Daft Punk.
C'est ce petit groupe là qui est pas très connu.
Petit groupe français légèrement connu dans le monde, Daft Punk. On entend du vent en tout cas.
Ouais, alors les conditions sont pas très ensoleillées, hein, contrairement à Clément. Alors il fait pas spécialement froid, 12 degrés environ, mais avec le vent et le ressenti, il faut quand même bien se couvrir. Les Brestois et les Bordelais, emmenés par Jimmy Briand, qui va avoir un rôle crucial, hein, le capitaine et vétéran de cette équipe bordelaise, qui entre à l'instant sur la pelouse dans un stade Leblay qui est un peu tristoun, hein, pour un 2 janvier. Le temps est pas de la partie, il y a très très peu de personnes dans les tribunes. Voilà pour la jeunesse bordelaise. On va le rappeler, il y a 6 jeunes amateurs, enfin à peine amateurs parce que certains ont signé pro, mais en tout cas qui n'ont pas de temps de jeu avec l'équipe première, et seulement 5 professionnels dans le 11 de Vladimir Petkovic après les 21 cas de Covid dans l'effectif pro de ces derniers jours à Bordeaux.
À tout à l'heure, David, pour le coup d'envoi de cette rencontre. David, c'est David Filippo qui est à la Beaujoire. Nantes, Vitré, Nantes 7e de Ligue 2 contre Vitré, club de National 2. Coup d'envoi imminent. Les équipes arrivent sur la pelouse, David.
Oui, elles sont en train de pénétrer sur la pelouse, les deux équipes. Donc il fait doux. Bon, il y a entre 9-10 000 personnes. C'est un peu tristouné quand même, surtout que le ciel est un peu gris. Mais on va voir. Sincèrement, j'étais en train de regarder, c'est quand même une équipe de Vitré qui est en immense difficulté en N2, hein. Ils ont été repêchés de N3 au dernier moment cet été, donc ils avaient construit un effectif pour la N3, donc ils sont derniers en N2, ils sont à 7 points je crois du premier non relégable. Ça va être compliqué quand même cet après-midi pour cette équipe de Vitré, mais sait-on jamais, la magie de la coupe, comme on dit, va peut-être opérer cet après-midi du côté de la Beaujoire.
Coup d'envoi dans 2 minutes et on ira également dès que possible à Versailles. Versailles, club de National 2 qui reçoit la Roche-Vendée, club de National 3 au stade Montboron de Versailles où le parking est trop petit et du coup où notre commentateur galère un petit peu à arriver, mais on va le retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle que c'est une journée exceptionnelle sur RMC. Nous sommes le 2 janvier et on est en direct de nombreux stades. Les 4 premiers match de cette Coupe de France. On est sur place. Il y en aura d'autres à 16h, à 18h30 ce soir, à 21h. Chauvigny, Marseille à vivre sur RMC. On a également le top 14, je le rappelais aujourd'hui. Et puis concernant le Paris Saint-Germain qui jouera demain à Vannes, je rappelle que 4 joueurs ont été testés positifs, dont Léo Messi qui est isolé en Argentine. Bernat également a été testé positif au Covid. Bernat qui s'est entraîné hier avec le groupe professionnel. Mauricio Pochettino était en conférence de presse il y a quelques minutes. La question lui a été posée, est-ce qu'il y a une peur que Bernat ait contaminé le groupe? Bon, Pochettino, comme d'hab, a un peu botté en touche en disant c'est le risque, c'est un sport de contact, on essaie de prendre toutes les mesures nécessaires, on prend toutes les précautions pour continuer à jouer. Fin de citation. 13h44 dans un instant, le retour du foot en France en direct avec les 16e de finale de la Coupe de France. Et il est là, Kevin Gasser, en direct de Versailles.
Salut Kevin.
Salut Kevin.
Salut Thibaut. Meilleurs vœux à toutes et à tous.
La bonne année à toi. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de parking là?
Oh là là, à Versailles, c'est difficile de trouver une place et j'étais chargé comme une mule, mais là c'est fait, je suis arrivé dans ma petite cabine.
Au
coup d'envoi, exactement. Alors c'est parti sur le match.
Ouais, vas-y Kevin.
Sur le match, voilà, le coup d'envoi vient d'être donné. Alors c'est peut-être pas l'affiche la plus alléchante de ces 16e de finale. Deux clubs amateurs qui s'affrontent. On a d'un côté donc les locaux, le FC Versailles, pensionnaire de National 2, qui reçoit la Roche Vendée Football, club de National 3. Mais l'issue de la rencontre, elle sera quoi qu'il arrive historique, puisque ce sera une première qualification huitième de finale dans leur histoire. Donc avantage Versailles qui évolue un échelon au-dessus, mais rien n'est joué puisque les ennemis du jour, les adversaires, la Roche-Vendée Football a éliminé les Voltigeurs de Châteaubriand, club qui évolue dans la poule de National 2 du FC Versailles. Donc pour l'instant c'est le FC Versailles qui joue en blanc, qui a le ballon, 0-0 entre les Yvelinois et les Vendéens.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça fera moins un club amateur encore en huitième de finale, et voilà, pourquoi pas une belle histoire. Bon, Manu, en même temps, Kevin, il a eu du mal à se garer. S'il avait pas pris son gros SUV 4x4 et qu'il avait pris la petite,
tu vois, Kevin, ça aurait été mieux.
C'est parti à Brest, Xavier Grimaud. Brest-Bordeaux.
Ouais, c'est parti depuis une minute à Francis Leblay avec le coup d'envoi donné par les Brestois et le ballon dans la surface de réparation avec les premiers ballons touchés par les Minots. Donc Bordelais qu'on va suivre avec attention. Premier ballon notamment touché par David Rouillard, troisième gardien de cet effectif Bordelais qui doit suppléer Benoît Costil et Gaëtan Poussin, les deux gardiens touchés par le coronavirus. La première touche pour pour Jonaco Louis-Jean, 17 ans. Il y a plein de noms qu'on va découvrir. C'est aussi le charme de la Coupe. 2 minutes 0-0.
C'est parti également à la Beaujoire. Nantes Vitré, David Felipe.
Ouais, 1 minute 30 ici à la Beaujoire, 0-0 entre Nantes et Vitré. Les joueurs de Vitré qui évoluent en National 2, je le disais, sont derniers en National 2, une seule victoire en championnat cette saison. Les Nantais qui ont le ballon depuis le début de ce match avec Fabio, peut-être servi sur le côté droit, il va pouvoir mettre en retrait pour Ludovic Blas, le centre à venir de Ludovic Blas dans la surface de réparation, mais c'est bien dégagé par les joueurs de Vitré. 0-0 entre Nantes et Vitré, 2 minutes de jeu.
À tout à l'heure, David, direction le stade Pierre de Coubertin, au stade de la Boca de Cannes. Toulouse, Clément Brossard, le match a pu bien démarrer, c'est bon?
Ouais, c'est bon, c'est parti depuis 2 minutes au stade Pierre de Coubertin. Après les petits accrochages là de début de rencontre en tribune, il y a quand même une belle ambiance à l'entrée des joueurs avec un petit tifo de la part des supporters cannois avec également de larges drapeaux dans les rangs toulousains. C'est parti sous les chapeaux de roue avec notamment une ligne offensive cannoise, un 4-3-3 dessiné par Jean-Noël Cabezas, l'entraîneur. Beaucoup d'ambition donc sur la composition de départ dans les rangs du club de National 3 à Toulouse aussi, parce qu'on a très peu fait tourner et que les titulaires en Ligue 2 sont présents. Je pense notamment à Rissilet qui est le meilleur buteur de Ligue 2, je pense à Branko van den Bomen qui est le meilleur passeur de Ligue 2. Voilà, c'est quasiment l'équipe type pour les hommes de Philippe Montagnier, qui donc ne sous-estime pas cette équipe de Cannes qui a déjà sorti deux clubs de Ligue 2, Rodez et Dijon, au tir au but. L'exploit est peut-être encore là au stade de Pierre de Coubertin. 3 minutes 0-0.
À tout à l'heure, Clément, c'est parti donc sur ces 4 pelouses sur RMC, les 16e de finale de Coupe de France avec Manu Amoros et avec Kevin Gasser à Versailles. Deux amateurs face à face, Versailles La Roche-Vendée.
Oui, Thibaut, un petit mot sur Versailles que j'ai pas eu le temps de vous dire, du coup j'étais dans les bouchons. Le club de Versailles qui est en pleine restructuration, novembre dernier, un nouveau directeur général qui est arrivé, et on le connaît très bien, c'est un personnage médiatique dans le football, Jean-Luc Haribard, donc qui est aux manettes du club. Le club se porte pour l'instant très bien, deuxième de sa poule en National 2, et ils ont un objectif, c'est les mots de Jean-Luc Haribard pour le quotidien Ouest France, c'est de monter en National et même plus vite de rejoindre le monde professionnel. Mais avant ça, il faudra quand même quelques restructurations dans le club, notamment l'éclairage, parce qu'il n'y a pas d'éclairage ici au stade Montboron, et ça pour jouer en pro c'est un peu plus difficile.
Eh oui, il y a combien de personnes là aujourd'hui à Versailles?
Alors pour l'instant il y a une jauge qui a été mise à 2500 personnes, mais je pense qu'il y a environ 1500 personnes dans le stade, c'est ce que me disait quelqu'un du club tout à l'heure. Donc il y a quand même du monde pour supporter les deux équipes. Pour l'instant, 4e minute de jeu, toujours 0-0 entre Versailles et la Roche-Vendée.
Là où il y a le plus de monde aujourd'hui, c'est peut-être à la Beaujoire, sous les yeux de David Felipeau. Non, c'est reçoit Vitré.
Ouais, 4 minutes de jeu, 0-0. Oui, c'est ce que je vous disais, entre 8 et 10 000 personnes pour ce match entre le FC Nantes, 7e de Ligue 1, et Vitré, dernier de N2. Les Nantais, évidemment, qui monopolisent le ballon à l'instant. Un bon ballon de Fabio qui a failli aller jusqu'à Renaud Aymon. Ça avait été touché par un défenseur, finalement, le gardien Steven Leroux a pu s'emparer du ballon. Attention, le centre là, d'un joueur de Vitré, finalement, s'est récupéré par Nicolas Palois. 4 minutes 30, 0-0 entre Nantes et Vitré.
Manu, sur ces débuts de match là de Coupe de France, quand t'es le petit comme Vitré par exemple face à Nantes, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout de suite jouer son jeu, aller tenter d'aller marquer, etc.? Ou le fameux bus pour commencer un match, c'est bien en Coupe de France?
Déjà il ne faut pas reculer, parce que plus tu recules, plus tu vas être acculé et tu risques de prendre un but très rapidement. Donc essayer de jouer haut les premières minutes en ayant un groupe bien compact et être bien solidaires les uns les autres. Et après, essayer d'avoir des opportunités pour toi marquer le premier but. parce qu'après ce sera, je dirais, Nantes va, et sera obligé de davantage ouvrir le jeu, et là il y aura peut-être plus d'opportunités pour Vitré.
Ils sont loin d'être tous derrière hein. Les joueurs de Vitré, c'est même eux qui ont le ballon depuis 45 secondes. Ils font circuler tranquillement le ballon. Attention, l'interception là de Rolly Pereira, le Nantais, dans la moitié de terrain de Vitré. Qu'est-ce qu'il va faire Rolly Pereira? Il va peut-être frapper, la frappe, oh, elle frôle le poteau du gardien de Vitré, Steven Leroux. On est passé tout près de l'ouverture du score des Canaries. 6 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0-0.
À tout à l'heure, David, comment ça se passe pour les amateurs de Cannes face au deuxième de Ligue de Toulouse, Clément Brossard?
Début de rencontre très animé, stade Pierre de Coubertin, 6 minutes de jeu, toujours 0-0. Première opportunité toulousaine tout à l'heure avec un bon débordement de la part de Adonéou qui est venu se centrer au second poteau pour trouver Ratao. Il a fallu le contre, le tacle même magnifique de la part de Quentin Moutiapoul, le défenseur central cannois, juste devant son gardien Florian Verplanque pour écarter le danger. Et derrière, réaction d'orgueil immédiate de la part des hommes de Jean-Noël Cabezas avec Kylian Jungen, le Hollandais de cette équipe cannoise, qui était un peu trop court pour récupérer un centre, mais il était pourtant seul à quelques centimètres de la cage d'Isaac Peterson pour reprendre ce ballon. Une occasion partout, mais toujours pas de but. 7 minutes entre Cannes et Toulouse.
À tout à l'heure, Clément. Comment ça se passe pour les jeunes pousses bordelaises à Brest, Xavier Grimaud?
Pour le moment, pas si mal. 7 minutes de jeu, 0-0. Mais les Bordelais qui ont réussi à se projeter, même si là, le milieu de terrain, Joab Pascal, va manquer son centre, ou ça fera peut-être du gauche, ce sera une sortie de but. Mais on a vu quelques sorties de balles et des ballons déjà à négocier pour Jimmy Briand, pour Wang, et quelques appels de Dil Rossoud. Donc, pour l'instant, c'est une rencontre très équilibrée entre Brest et Bordeaux, avec une frappe brestoise, la frappe de Fèvre à l'entrée de la surface, qui était bien trop faiblarde et qui a été prise en deux temps par David Rouillard, le gardien bordelais, cet après-midi. 7 minutes 0-0.
Manu Amoreau, je ne sais pas si tu as un écran sur ce match, la Brest-Bordeaux. Je viens de voir une image, oui. Xavier, Michel Derzakarian avec un bonnet, mais je croyais qu'il faisait 12 degrés partout en France. Là,
c'est mais n'oublie pas qu'il vient du Sud, donc c'est tout à fait normal.
Hein. But pour le FC Versailles qui ouvre le score par l'intermédiaire du numéro 9 sur un bon coup franc venu de la gauche. Pour l'instant, ça s'observait dans ce match. Bah voilà, le compteur est débloqué. 1-0 pour les locaux de Versailles face à la Roche-Vendée Football. On joue la 8e minute de jeu.
Versailles National 2 contre la Roche-Vendée National 3. Kevin Gasser, le premier but marqué sur une pelouse française en 2022 par Versailles. Match qui est équilibré, en tout cas sur le papier, Manu.
Oui,
National 2, National 3, on est très proche là sur les niveaux.
Oui, on est très proche. Avantage bien sûr à Versailles, mais là, tu vois, sur le coup de pied arrêté, je ne sais pas si tu as les images, sur le coup de pied arrêté, il frappe super bien entre le gardien de but qui ne peut pas intervenir et vraiment la ligne de défense et le joueur qui est en mouvement. Il vient couper la trajectoire et il met ce pied pour marquer le but. Un très beau but. Parce qu'on a trop tendance des fois à dire que ouais, les amateurs ne s'appliquent pas trop ni rien. Et là, il montre qu'il y a quand même de la qualité. Et un coup franc, c'est un jet technique. Donc, le mettre au bon endroit, au bon moment et dans la course de son partenaire, c'est super.
Les 16e de finale de la Coupe de France, c'est dans l'intégrale foot sur RMC. Il est 13h53 en ce 2 janvier. On est ensemble sur l'hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Il y a Laurent qui dit, vu l'acoustique, Kevin Gasserman, il a fait demi-tour et il commande depuis chez lui. Non mais t'es bien au stade, hein. Kevin, rassure-nous, ce Versailles, la Roche-Vendée.
Bien sûr, en fait, l'acoustique, je pense, ça vient de la cabine, donc j'ai un plexiglas devant moi, c'est peut-être pour ça que ça résonne un peu, mais oui, je suis bien en cabine, bien au stade.
Ah oui, tu vois, on a mis un petit parking, mais on a tout mis les moyens sur la protection anti-Covid. Tu vois, t'as ton petit plexiglas pour être bien.
Tu vois, les derniers arrivés, les premiers servis. Hein, premier but de Versailles, Kevin, bravo.
À tout à l'heure, Kevin. Je vous rappelle que dans 5 minutes, c'est le rugby qui reprend ses droits à la suite de la 14e journée de Top 14. La section paloise reçoit le CA Brive Corrèze et ce sera sur RMC. Évidemment, direction la Beaujoire, Nantes contre Vitré. David Philippot, on t'avait laissé sur une grosse occasion nantaise. Est-ce que les pros accélèrent en ce début de match?
Ouais, 10 minutes de jeu à l'instant, un corner pour le FC Nantes, la tête de Giroto directement, mais il était bien placé, hein, défenseur central nantais, la tête qui est allée directement dans les bras de Steven Leroux, qui est en BTS lui, hein. Il n'y a pas que des contrats fédéraux du côté de Vitré. Il y a quelques joueurs qui travaillent dans la semaine, mais pas tous, hein. Il y en a quelques-uns aussi qui ne font que du football. 0-0 donc après 10 minutes de jeu, mais voilà, ils sont pas timides, hein, ces joueurs de Vitré. Ils sont poussés par 300 supporters Vitré, hein, donc qui ont fait le déplacement 0-0 après 10 minutes de jeu ici à la Beaujoire.
À tout à l'heure, David. On va retourner en Bretagne, dans le Finistère, le stade Francis Leblay, Brest contre Bordeaux. Xavier Grimaud.
Et avec le corner tiré à l'instant par Romain Febvre au deuxième poteau. Il y a Steve Mounier qui avait pris ce ballon de la tête. Ce sera finalement une sortie de but pour David Rouillard. 0-0, 11 minutes de jeu, match équilibré. On a vu un déboulé la côté gauche tout à l'heure de Franck Honora avec une nouvelle frappe de Romain Febvre, cette fois à nouveau contré. On le voit pas mal, hein, Romain Febvre. On va juste rappeler côté brestois qu'ils sont privés d'Aris Belkebla, parti avec la sélection algérienne pour la CAN. C'est voilà, le seul absent de Marc côté brestois, donc ça ressemble vraiment à la grosse équipe qu'on devrait voir évoluer en janvier. Très peu de cas de Covid, même pas de cas de Covid déclarés du côté du, enfin déclarés, je vais pas dire qu'ils en ont pas déclaré, hein, mais très peu de cas de Covid.
On te voit venir, Xavier.
Non, on marche sur des
oeufs,
mais ce sera intéressant effectivement.
Tu ne veux pas tout nous dire.
Non mais en tout cas, je vous dis
tu es à la botte est... de non, je ne sais pas. Oui, alors qu'on rappelle que Bordeaux c'est l'inverse, l'équipe est décimée, Xavier.
Ouais, 21 cas de Covid, c'est quand même énorme, et ils n'ont pas pu reporter le match malgré leur demande, avec le ballon qui va être rendu là au Bordelais. 0-0, 12 minutes de jeu, très légère domination brestoise, on va dire. En tout cas, les Brestons ont tiré trois fois au but. On attend la première attaque sur le but de l'Arseneur. 0-0, 12 minutes de jeu.
À tout à l'heure, Xavier. On a les oppositions entre amateurs, les oppositions entre clubs de Ligue 1 et les oppositions entre amateurs et professionnels. C'est le cas entre Cannes, National 3 et Toulouse, le deuxième de Ligue 2. Clément Brossard.
Où Cannes se débrouille bien dans ce début de partie, hein. 12 minutes, toujours 0-0, ambitieux, avec quelques contres bien menés, mais c'est quand même Toulouse qui garde le ballon, avec notamment Moussa Diarra qui est sur le côté gauche, qui va pouvoir trouver Rissile, le meilleur buteur de la Ligue 2 de jeu. Il y a une très bonne défense cannoise, même s'il est passé pour le FC Versailles.
2-0, ça vient du numéro 11
contre Kevin Gasser. On va à Versailles contre la Roche-Vendée, Kevin Gasser.
Oui, 2-0 pour Versailles. Ça vient de la droite cette fois. C'est le numéro 11, Zakaria Grich, qui la met pour le numéro 9, Christopher Ibaï. Encore lui, je crois que c'est un doublé. 2-0 pour les Versaillais. On joue la 13e minute de jeu et ça va être dur pour les Vendéens, pour les Lyonnais, sur tout ce match, parce que pour l'instant, ils ont du mal à dépasser leur moitié de terrain. 13e minute de jeu, pardon. 2-0 pour les Versaillais.
Et là, Manu, quand on a préparé ce match, qu'on y pense depuis des semaines et qu'on se retrouve mené 2-0 au bout de 12 minutes, ça fait mal à la tête. Là.
Ah ben, ça fait mal. Hein. Surtout qu'il y a des erreurs quand même défensives, parce que on voit le milieu de terrain qui a le ballon et qui avance. Il n'y a personne qui sort sur lui. Donc, avec son pied gauche, il peut donner sur le côté. Et le gars sur le côté donne un super ballon. Là, pareil, entre le gardien et qui ne peut pas intervenir. Et son joueur. Donc voilà, une belle action. Et c'est vrai, quand on prépare ce match et qu'on peut prendre deux au bout de quoi, de 5 minutes, 10 minutes, c'est dur. Hein. Ah ouais, là.
Est-ce qu'il aurait été dommage, c'est d'arriver en retard au stade. 2-0.
J'ai rien loupé pour l'instant.
Non, mais parfait. C'est le professionnalisme.
Il n'y a pas la VAR, là, parce qu'il me semble qu'il est quand même un peu hors jeu. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Alors, moi, je ne suis pas exactement à la ligne, mais bon, l'arbitre n'a rien dit. C'est vrai que c'était. C'est vrai que c'était un peu suspicieux, mais bon, le but est accordé, 2-0. Ouais. Et on a vu une petite image, c'est les Vendéens qui se sont rassemblés, qui ont formé un cercle juste avant le coup d'envoi du deuxième but. Ça se parle déjà, ça se remobilise déjà avant cette 15e minute de jeu pour peut-être essayer de réduire l'écart et d'inverser la tendance. 2-0 toujours, 14e minute de jeu entre Versailles et la Roche-Vendée.
À tout à l'heure, Kevin. On va conclure à Cannes, Cannes-Toulouse, Clément Brossard.
Oui, autant pour moi, Kevin, je ne t'entendais pas coupé sur ce but avec Toulouse qui garde le ballon, je vous le disais, mais en contre il y a peut-être l'occasion de faire quelque chose pour les Canois, puisqu'il y a pas mal d'animation, hein, entre Souleymane Jabour, entre Stanislas Kiel, qui ont fait beaucoup de mal à Dijon il y a quelques jours. Il y a eu une grosse faute là de la part du défenseur central Nicolas Coulangon, et donc un coup.
Et bah voilà, Clément, voilà. On n'aura pas la suite de cette action, mais promis, on va y retourner très vite. On va faire un tour des stats. C'est ça aussi la Coupe de France.
Par contre, hein, le terrain, je ne sais pas si tu vois, Thibaut, mais il n'est pas terrible, la CAN. Hein.
Ah bah c'est National 3, hein, Manu, c'est ça aussi la Coupe de France.
Mais bon, ça fait rien. Tu peux avoir quand même à CAN, ils ont toujours eu des bons terrains. Et là, franchement, ça glisse. Est-ce qu'ils ont trop mouillé ou est-ce qu'il a plu? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de sable, je trouve.
Oui, mais on aime ça le 2 janvier sur de la Coupe de France, Manu. Encore, il aurait pu neiger, hein, mais bon, là, il fait 12 degrés partout en France.
Neiger à CAN. Ça s'est pas beaucoup vu.
Ouais, ça arrive. Alors, on va faire un tour des stades là sur RMC, nos premiers 16e de finale de Coupe de France. Brest-Bordeaux, le duel 100% Ligue 1. Xavier Grimaud, le temps, le score, s'il te plaît.
Le quart d'heure de jeu 0-0 entre Brest et Bordeaux.
Nantes, Ligue 1 contre Vitry National 2, David Filippo.
La tête des monts qui passe juste au-dessus, 0-0 après 15 minutes de jeu.
Versailles National 2 contre La Roche, Vendée National 3, Kevin Gasser.
16e minute de jeu, déjà 2-0 pour le FC Versailles face au Vendéen.
Et toujours 0-0 entre Cannes National 3 et Toulouse, Ligue 2, où nous retrouverons Clément Brossard qui n'entend rien, qui des fois ne peut plus parler. Ouais, c'est la Coupe de France. Dans un instant, sur RMC, à 14h, la suite de l'intégrale Foot Coupe de France. Et puis on ira également au rugby, où ça vient de partir entre Pau et Brive au stade du Hameau. C'est la 14e journée de Top 14. Merci d'être sur RMC. Meilleurs vœux encore. On est content de passer ce 2 janvier avec vous.
RMC, Intégral Foot, Coupe de France.